Des Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 et une lecture à partir du verset 16e. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16 et à partir du verset 16. Voilà, nous lisons ce récit. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendirent. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Voilà, nous découvrons donc par ce texte de quelle manière s'est manifestée la grâce de Dieu dans ce lieu curieux qu'est une prison et de quelle manière Dieu est intervenu pour venir en aide, pour secourir ceux qui s'y trouvaient. Peut-être avons-nous pensé jusqu'ici que Dieu ne se manifestait que dans un édifice cultuel, dans une église. Bien, nous voyons ici que Dieu n'est pas limité par les lieux, mais il est capable d'intervenir, il est capable de manifester sa grâce en tout lieu, même dans une prison. Un lieu peu hospitalier, souvent un lieu qui est théâtre de bien des misères, bien des souffrances. Bien, Dieu n'est pas limité par les lieux. D'ailleurs, il y a un passage de la Bible qui nous apprend que Dieu est proche, il n'est pas loin de chacun d'entre nous, il est proche de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, de telle sorte que cet après-midi, dans ce lieu où quelques croyants sont assemblés, oui, nous croyons que Dieu se trouve présent et désireux d'agir. D'ailleurs, le Christ a laissé cette promesse que là où deux ou trois s'assembleraient pour son nom, il serait présent au milieu d'eux. Mais qui que vous soyez, ou que vous habitiez, ou que vous demeuriez, il vous est possible chez vous d'invoquer Dieu, de recevoir son secours. Je me souviens de ce jeune homme qu'il y a des années de cela, passé par une période difficile de sa vie, il n'avait pas encore 20 ans, mais la vie avait frappé et il avait vécu une existence chaotique, il se trouvait dans une mauvaise passe, un moment particulièrement difficile, et un jour, en désespoir de cause, ce jeune homme qui n'était pourtant pas croyant était entré dans une église et son ignorance, il était monté dans cette église officielle pour brûler un cierge, puisque sa famille pratiquait ainsi, là aussi dans l'ignorance. Et du fond de son cœur, il criait en disant « Dieu, si tu m'entends, bien, secours-moi, viens donc à mon aide. » Et ce n'est pas bien sûr à cause de sa bougie, pas à cause du lieu de culte dans lequel il était entré, mais Dieu a entendu la prière de ce jeune homme. Et parce que Dieu n'est pas limité par aucun lieu, il s'est manifesté dans la vie de ce jeune homme quelques mois plus tard dans un tout autre lieu. Et ce jeune homme a vu la main de Dieu s'étendre sur sa vie pour lui accorder une délivrance. Voyez-vous, Dieu n'est limité par aucun lieu, Dieu n'est pas limité par nos formes. Dans cette prison, Dieu a opéré finalement une triple délivrance. Une triple délivrance. Il y a un passage de la Bible qui révèle Dieu comme le Dieu des délivrances. Et ici, nous voyons qu'en fonction de la condition de plusieurs des personnes qui se trouvaient dans cette prison, Dieu a opéré une délivrance qui était appropriée à leurs conditions. Première des délivrances que ce récit nous rapporte finalement, c'est celle de deux apôtres qui ont été là injustement emprisonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux hommes étaient venus dans la ville de Philippe, Paul et Silas, il s'agissait d'apôtres du Christ, pour y annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ils avaient, entre autres, dans un lieu de prière où s'assemblaient quelques femmes, annoncé cette bonne nouvelle que Dieu nous aime, que Dieu a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, que ce Jésus-Christ, dont on avait entendu parler abondamment à l'époque à Jérusalem et au-delà, que l'on avait livré au clou de ses bourreaux, bien, Dieu l'avait ressuscité des morts et avait ainsi prouvé qu'il accomplissait la promesse qu'il avait faite à Israël et à l'humanité d'envoyer celui par lequel il souhaitait nous délivrer, nous donner une véritable espérance. Et ces deux hommes ont abondamment annoncé, prêché cette nouvelle, exhortant chacun à croire, exhortant les plus désespérés à placer leur foi et leur confiance dans ce Jésus ressuscité qui avait répandu son esprit, qui a répandu son esprit sur le monde pour que quiconque le souhaite puisse entrer en communion avec lui, recevoir par lui le pardon de ses fautes, être réconcilié avec Dieu le Père. Et des hommes et des femmes avaient écouté ce message, prêté attention à la parole des apôtres, et il nous est dit qu'au bout d'un moment, ils ont été suivis par une femme qui était possédée par un esprit de Python, c'est-à-dire que cette femme avait ouvert dans sa vie la porte à des puissances occultes, ténébreuses, et elle procurait à son maître, puisqu'elle était esclave, elle procurait à son maître un gain financier en prédisant l'avenir. Et cette femme, donc liée, possédée par ce démon, s'est mise à suivre les apôtres et à crier, à attirer l'attention sur eux de manière négative, telle sorte que, au bout d'un moment, Paul, excédé, nous dit l'Écriture, s'est retourné, a menacé l'esprit qui l'habitait, lui a dit « Tais-toi, sors de cette femme ». Et en sortant de cette femme, eh bien, cette femme a perdu tous ses pouvoirs de divination, ce qui a courroucé, ce qui a irrité son maître. Le maître s'est plaint et les apôtres, injustement, parce qu'ils n'avaient rien fait de mal, bien au contraire, ont été arrêtés et ont été jetés en prison. Et on aurait pu se poser la question, mais que fait Dieu? Vous voyez, que fait Dieu? Puisque ces deux hommes étaient ses serviteurs, ces deux hommes n'ont fait que du bien, ces deux hommes se sont efforcés de faire ce qui lui était agréable, et les voici en prison. Alors que fait Dieu? Est-ce que Dieu les a abandonnés? Est-ce que Dieu est injuste? Vous voyez, Dieu est capable de changer pour ceux qui lui font confiance, même le mal en bien. Dieu est capable de changer même une situation difficile pour la faire concourir à notre bien, pour la tourner à notre avantage, en tout cas à ses desseins bienveillants. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu permet parfois, dans la vie même de ceux qui se confient en lui, qu'il y ait des difficultés qu'on ne comprend pas toujours. Il permet parfois des situations étonnantes, des situations qui soulèvent en nous toutes sortes d'interrogations, mais il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. D'ailleurs, il y a ce verset de la Bible qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que Dieu l'en délivre toujours. Et là, ces deux hommes de foi, ces deux chrétiens, ces deux apôtres, ils sont en prison, mais Voilà, j'imagine qu'ils ne savent pas forcément de quelle manière la situation va évoluer, mais même le fait d'être en prison n'a pas pu leur enlever leur foi. Et on les trouve là en pleine nuit, en plein milieu de la nuit, chantant les louanges de Dieu. Et de la même manière, on pourrait s'adresser cet après-midi à un chrétien pour lui dire « Prends courage, chrétien, mon frère, ma sœur, toi qui passes par une situation difficile, toi qui peut-être, à cause de ta foi, est exposé à une situation délicate, peut-être à l'opposition de quelqu'un qui te tient de près, de quelqu'un qui, là, sur ton lieu de travail, a un pouvoir, finalement, sur toi. Prends courage, parce que lorsque Dieu permet l'épreuve, il permet aussi le moyen de s'en sortir. » Vous voyez, Dieu a fait concourir cette situation au bien de ces deux hommes, puisqu'à travers la délivrance qu'il va leur accorder, ce n'est pas seulement eux, mais d'autres encore qui vont être bénis. Dieu va intervenir, et à la fin, ils seront relâchés. Ils seront délivrés, et par leur présence, les prisonniers qui sont avec eux dans ce lieu de détention, et le gardien, le geôlier, vont être bénis. Aussi, si nous passons par la difficulté, si nous passons par l'épreuve, ne perdons pas confiance, ne perdons pas courage, mais croyons que Dieu ne nous abandonne pas pour autant, mais il est capable de transformer cette situation. Un homme qui a fait une expérience un peu similaire, à la fin de sa vie, s'est retourné et a dit, ben voilà, telle personne, il s'agissait de ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc une première délivrance, c'est celle de ces deux apôtres injustement emprisonnés, sur lesquels Dieu va garder son regard, et à travers la délivrance desquels, d'autres vont être bénis. Puis une deuxième délivrance que nous voyons dans ce texte, c'est la délivrance des autres prisonniers qui se trouvaient avec ces apôtres dans la prison. Il y avait toutes sortes de prisonniers, et on peut supposer, sans risque de se tromper, que parmi eux, il y en avait au moins plusieurs qui étaient là, parce qu'il s'agissait de prisonniers de droit commun, des gens qui avaient commis quelques larcins, quelques forfaits, quelques méfaits, et ils étaient là, dans cette prison, parce qu'ils recevaient de la main des juges la justice que leur comportement et que leur forfait, de manière juste, appelait sur eux. Et tout à coup, cette nuit-là, alors que c'était une nuit comme toutes les autres dans la prison, et on voit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Alors que les apôtres du Christ avaient été amenés dans ce lieu, il y a un grand tremblement de terre, les fondements de la prison sont ébranlés, et il nous est dit qu'au même instant, toutes les portes se sont ouvertes, et les liens de tous les prisonniers, puisque les prisonniers, dans ce type de prison, à l'époque, étaient tous liés par des chaînes ou des fers, les liens de tous les prisonniers se sont rompus. Et on remarque que c'était une intervention divine, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'a pas permis que ces prisonniers s'enfuient. Leurs liens ont été rompus, leurs chaînes ont été cassées, mais tout le monde est resté en place. Imagine qu'il devait y avoir dans cette prison, outre le choc provoqué par le tremblement de terre, une manifestation de la présence de Dieu qui a suscité une crainte respectueuse dans le cœur de ces détenus. Personne n'a bougé. Mais ils ont été délivrés. Dieu a opéré une délivrance cette nuit-là dans cette prison pour chacun de ceux qui étaient incarcérés. Alors, quelqu'un dira, mais voilà, ça s'est passé il y a 2000 ans. C'est intéressant, c'est surprenant de voir que Dieu a rompu les chaînes de tous ces prisonniers. Mais qu'est-ce que ça peut avoir à me dire à moi ? Je ne suis pas prisonnier, je n'ai pas dans une prison, je n'ai pas de chaînes. Mais en êtes-vous bien sûr ? Il s'agissait ici de chaînes de métal, de fer, qui tenaient ces gens prisonniers, liés au lieu où ils étaient détenus. Et ce n'est pas notre cas cet après-midi. Mais si nous ne sommes pas à Dieu, si nous n'avons pas personnellement fait une expérience avec le Christ, n'y a-t-il pas dans votre vie d'autres types de chaînes qui vous lient ? sur le plan moral, sur le plan spirituel, la chaîne de quelque habitude, de quelque pratique, de quelque pensée mauvaise, ou quelque manière de vous comporter que vous savez être condamnable, mais de laquelle il vous est tout à fait impossible de vous dégager. Vous voyez, c'est le Christ qui a tenu ces propos, qui a dit « Quiconque se livre au mal, quiconque se livre au péché, il est esclave du péché. » Et encore, un apôtre du Christ disait que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Notre âme, notre être moral et intérieur peut être lié, tenu dans les chaînes par quelques passions, quelques mauvaises habitudes. Alors, pour certains, ça peut être la cigarette, chose aussi insignifiante que ça. Combien de gens qui disent régulièrement, « Moi, le mois prochain, j'arrête de fumer. » Quand ils le disent, ils sont plus ou moins sincères. C'est plus fort qu'eux. Bon. Des gens sont parfois liés par d'autres passions qui ont des conséquences directes sur eux, sur leur famille, d'autant plus redoutables. Le jeu, par exemple. Vous avez des gens qui sont pourtant des hommes de bon sens, qui ont travaillé, qui ont atteint peut-être un certain rang dans la société, et qui sont esclaves de la passion du jeu. Et ils se rendent compte que ça les ruine, que ça ruine leur famille, que c'est plus fort qu'eux, qu'ils y dépensent des sommes absolument invraisemblables, et parfois, dans des moments de lucidité, vous voyez ces gens-là qui disent « Mais c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer à mener cette existence, je ne peux pas continuer à mentir ainsi à ma famille, je ne peux pas continuer à dépenser l'argent du foyer », et ils y retournent régulièrement. C'est comme s'ils étaient liés. Pour d'autres, c'est l'alcool. Pour d'autres, c'est je ne sais pas, moi, la pornographie. Pour d'autres encore, ça peut être autre chose. J'ai connu, dans une ville de l'Est de la France, une jeune fille, encore adolescente. Elle avait tout juste 18 ans. C'est terrible. Elle était liée par une manie qui l'amenait à s'arracher les poils de la tête. Elle se mutilait elle-même. Même la nuit. Et bien sûr, ça la tourmentait, ça l'inquiétait très fortement. C'était plus fort qu'elle. Elle était absolument liée par cet état qui la poussait, n'est-ce pas, à commettre des actes où elle se défigurait, elle s'avilissait elle-même. Bien, l'Évangile, pour nous, est une bonne nouvelle. Et si quelqu'un reconnaissait, d'une manière ou d'une autre, ses chaînes morales, spirituelles, bien, nous avons une bonne nouvelle à partager. Jésus délivre de toute chaîne. Le Christ a dit, si le Fils, c'est lui, le Fils de Dieu, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. De la même manière que les chaînes de ces prisonniers ont été brisées surnaturellement cette nuit-là, bien, le Christ est capable de vous affranchir et de vous délivrer de vos chaînes. Quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Bien, approchez-vous de lui tel que vous êtes. Confiez-vous dans sa grâce, confiez-vous dans son amour, confiez-vous dans le fait qu'il est capable d'intervenir. Quand un malheureux crie, Dieu l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et on va le voir dans quelques instants, quelqu'un dira, mais j'ai pas mérité, je n'ai rien fait pour ça. Venez au Seigneur tel que vous êtes. Avec vos chaînes, avec vos fers, avec ce qui vous tient lié, et faites-lui confiance pour vous en délivrer. Donc, vous voyez, une deuxième délivrance. D'abord, la délivrance de ces deux apôtres injustement emprisonnés. Ensuite, la délivrance des autres prisonniers. Et puis, une troisième délivrance, et une dernière qui apparaît dans ce texte, c'est la délivrance du gardien de prison. Comme quoi, vous voyez, aux yeux de Dieu, et en réalité, les choses sont parfois très différentes de ce qu'elles apparaissent au regard de l'homme. Dans cette prison, vous aviez notamment ces deux apôtres emprisonnés, les fers aux pieds, et ils étaient libres. Ils étaient libres parce qu'ils chantaient, ils priaient, chantaient les louanges de Dieu, Voilà, cette liberté-là, personne ne pouvait leur retirer. Puis vous aviez le gardien qui, lui, passait pour être libre, et pour cause, il surveillait les prisonniers. C'est lui qui faisait régner l'ordre dans cette prison, qui en avait la charge. Mais lui aussi, on va voir qu'il était lié par toutes sortes d'entraves et de chaînes morales et intérieures. Quand il va y avoir le tremblement de terre, eh bien on le voit tout de suite avoir peur. Et ça montre ça, ses craintes intérieures, malgré sa position, malgré l'ordre social, pourrait-on dire, qui régnait à l'intérieur de cette prison. Lui était rempli de toutes sortes de craintes. Et quand il voit que la prison tremble, que les chaînes des prisonniers sont rompues, il doit en entendre le bruit, immédiatement, sa première pensée, c'est « Voilà, on va dire que j'ai pas fait mon travail, les prisonniers, sans doute, se sont tous échappés », commence à s'imaginer un tas de choses, et dans sa tête, le scénario se dessine rapidement, les prisonniers se sont échappés, je vais devoir rendre compte aux autorités, mon travail va être mis en cause, ma vie est ruinée. Et son trouble est accentué par le fait qu'il fait nuit, il y a peu ou pas de lumière, il ne voit pas ce qui s'est passé, au point qu'il nous est dit qu'il a tiré son épée et il s'apprête à se tuer. Il est à deux doigts de se supprimer, cet homme. Quand, imaginez cette scène, en plein milieu de la nuit, l'apôtre Paul va prendre la parole et il va lui adresser la parole. Alors, je doute que Paul ait pu voir ce qui s'est passé. En plus, il faisait noir. C'est Dieu qui va inspirer cette parole à l'apôtre. De telle sorte qu'en plein milieu de la nuit, alors que ce gardien de prison est à deux doigts de se supprimer, la parole de Dieu va retentir en plein milieu de la nuit pour lui accorder à lui aussi une délivrance. Ne te fais pas de mal. Ne te fais pas de mal. C'est la voix de Dieu, pas la voix d'un homme. Ce n'est pas seulement la voix de l'apôtre Paul, on l'a dit, qui ne voyait pas ce qui se passait. Dieu inspire à Paul ce message extraordinaire d'espérance. Ne te fais pas de mal. Et ce gardien, ce geôlier, rempli de crainte, qui est là, lié par la pensée du suicide, c'est ça finalement, bien entend cette voix qui va être pour lui l'instrument de Dieu pour sa délivrance. La parole de Dieu, nous est-il dit, agit en nous qui croyons. Elle peut créer la foi dans un cœur qui a été jusque-là froid, incrédule, insensé même. Elle peut créer l'espoir dans un cœur qui est abattu. Elle peut rallumer l'espérance dans un cœur qui a perdu absolument toute espérance. Le gardien va demander de la lumière. On va lui en apporter. Il se jette tout tremblant aux pieds des apôtres. Cet homme qui avait une position d'autorité, de force, montre là toute sa faiblesse. Et il va poser cette question qui montre que il avait entendu parler du message que les apôtres apportaient. Sans doute lui en avait-on rendu témoignage. Cette nouvelle s'était répandue dans la ville. On lui avait rapporté la teneur de cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Il n'en avait rien fait jusqu'à ce moment-là. Mais la situation critique dans laquelle il se trouve l'amène à reconnaître son besoin. « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et c'est bon quand le cœur d'un homme ou d'une femme reconnaît devant Dieu son besoin de secours, son besoin d'être secouru, son besoin de recevoir dans les combats et les coups de la vie l'aide de Dieu. Et puis sa question va plus loin que ça, parce que être sauvé, c'est recevoir la grâce de Dieu, le pardon de nos fautes, la réconciliation avec Dieu, comme nous le disions tout à l'heure, et une assurance pour l'au-delà, une assurance pour l'éternité. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse des apôtres ne va pas consister à lui dire, eh bien, il faut que tu aies telle ou telle religion, il faut que tu pratiques telle ou telle aumône, il faut que tu fasses des bonnes œuvres, il faut que tu rachètes par telle ou telle action, par telle ou telle attitude, ce que ta vie a été auparavant. Non, leur parole a été une parole qui l'encourageait à la foi. Crois au Seigneur Jésus. Autrement dit, reçois le témoignage que la Bible rend à l'Évangile. Témoignage à l'amour que Dieu te porte, témoignage de l'efficacité que Jésus-Christ a offert pour toi, en se chargeant sur la croix de tes fautes, de tes erreurs, de tes manquements. Crois au témoignage que la Bible rend à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, par laquelle Dieu publie, proclame à la face du monde que Jésus est réellement ce qu'il a proclamé être, le Fils unique de Dieu, que le Christ va recevoir en tant que Messie, que Fils unique de Dieu, la seigneurie sur l'Église et tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et aussi le fait que cette résurrection, bien c'est un gage de la résurrection de tous les croyants, qui ne viennent pas en jugement, mais qui sont passés de la mort à la vie, qui ont la vie éternelle. Et cet homme, devant ce message, va croire. Alors son cœur est changé, regardez-le. Ce gardien de prison va se mettre à laver les plaies des prisonniers. C'est pas seulement de la reconnaissance, c'est la joie de Dieu. Vous voyez, il est plein de bonté. Sa vie renaît complètement. Il vit un véritable changement intérieur, une métamorphose. Et il y avait même une parole pour lui, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et on imagine, même si la Bible n'en dit rien, que la vie de cet homme, à partir de ce jour-là, va être complètement métamorphosée et que ça va durer, parce que suite au passage des apôtres, et malgré ces événements chaotiques qui vont les accompagner, il va y avoir une église dans la ville de Philippe, et ça va durer. L'église va prospérer. Et ce foyer où peut-être régnait la discorde, régnait la mésentente, bien, est marqué là par la paix, par la joie de Dieu. Ça peut vous arriver. Trois délivrances. La délivrance des apôtres injustement emprisonnés, la délivrance des prisonniers et la délivrance de ce gardien de prison. Ça nous parle de la délivrance que Dieu souhaiterait accorder à quiconque s'approche de lui l'après-midi, en fonction de sa condition. Est-ce que ça vous concerne? N'aimeriez-vous pas venir cet après-midi à Christ? Je propose qu'on se recueille quelques instants et que, ensemble, nous invoquions le Seigneur.